Enfance buissonnière, réflexion autour de la liberté d'instruire. Un cycle d'émissions à écouter sur Radio Diwa, 107.5 FM ou sur internet rdwa.fr.
Quelle heure est-il ? J'ai le ventre qui
m'appelle. Reste assis.
Tiens-toi droite.
Arrête de pleurer.
Ne fais pas le bébé.
Tes mains sur la table.
Range ta chambre.
Dépêche-toi.
Regarde-moi quand je te parle.
Réfléchis un peu.
T'es bête ou quoi ?
Arrête de râler.
Si tu continues, tu vas t'en prendre une.
Finis ton assiette.
Tu l'as bien cherchée.
Et baisse les yeux quand je te parle.
Ne viens pas te plaindre.
Et baisse les yeux quand je te parle.
Attends.
Tais-toi.
Viens là.
Reste assis.
Je t'avais prévenu.
Bon, tu arrêtes de bouger.
Va te coucher.
Je compte jusqu'à 3.
Attention à toi si je me lève.
Tu me fatigues.
Arrête tes bêtises.
Tiens-toi tranquille.
Chut.
Arrête tout de suite. Tout de suite, j'ai dit.
Lève-toi les mains.
Finis ton assiette. Je ne vais pas le répéter 2 fois.
Arrête de chialer ou tu vas comprendre pourquoi tu pleures.
Quel béné, celui-là.
T'es pas beau quand tu pleures.
C'est moi qui commande.
Tu manges comme un cochon.
Il y a vraiment des baffes qui se perdent.
Va dans ta chambre.
Tout de suite.
Tu reviendras quand tu seras calmé.
Écoute-moi quand je te parle.
On peut se calmer, là ? On se tait ? On se tait ? Ah, je compte à 3 et à 3, on démarre l'interview. 1, 2, 3, c'est parti. Bon. Bon, aujourd'hui... Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va un peu repousser les limites de nos croyances sur l'instruction, l'éducation, l'enfance, toutes ces choses qu'on a toujours pris pour acquises. Et si on va essayer d'aller un peu les questionner. Et pour ça, on va se baser sur 5 livres qui ont marqué l'histoire de la pensée éducative. Et pour nous en parler de ces 5 livres, j'accueille Anne-Laure et Yann aujourd'hui. Bonjour Anne-Laure, bonjour Yann.
Bonjour Eric.
Bonjour Eric.
Je vous laisse vous présenter.
Moi, je suis Anne-Laure. Je suis mère de 2 enfants de 14 et 9 ans qui n'ont jamais été scolarisés. J'ai jamais été contre l'école. J'ai moi-même été scolarisée quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai toujours pensé que je mettrais mes enfants à l'école. En fait, quand mon premier enfant est né, j'étais juste tellement contente de vivre avec lui... Que finalement, j'ai repoussé la crèche tous les 6 mois. Et quand à 2 ans et demi, il a fait qu'on se pose la question du coup de l'école, on est allé visiter l'école publique du quartier. Moi, j'étais à cette époque-là, j'étais infirmière, vraiment hyper engagée pour la fonction publique. Ça me semblait juste évident que mes enfants aillent à l'école publique. On habitait sur Paris à l'époque, dans un quartier populaire. Et l'école publique de notre rue, il y avait déjà un énorme vigile à l'entrée qui faisait la sécurité toute la journée. Dans la cour de récréation, les enfants y allaient pour alternance parce que le niveau de violence entre enfants était extrêmement élevé. Et il y avait un filet au-dessus de la cour parce que les enfants se recevaient des projectiles, des HLM en fait, du coin. En fait, ça ne m'a pas semblé possible de le mettre dans cette cage-là. On est quand même allé voir les écoles alternatives, mais en fait, il aurait fallu qu'on travaille comme des fous pour pouvoir payer l'école. Et s'il n'y avait aucune mixité, très peu de mixité sociale et culturelle dans l'école de notre quartier, il y en avait très peu non plus dans les écoles alternatives, ça ne nous allait pas du tout. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai rencontré des parents non scolarisants. Et ça a été le soulagement de me dire, l'école n'est pas obligatoire, on a le temps, on peut juste continuer à vivre comme on l'a toujours fait avec... notre enfant, on verra quand ça sera sérieux. Et là, ça a été le début, pour moi, le début d'une réflexion. J'ai commencé, du coup, à ouvrir cette porte-là. Et une fois que j'ai commencé à l'ouvrir, j'ai jamais pu la refermer, en fait. Je me suis vraiment pris plein de choses dans la tête. Beaucoup, beaucoup de choses ont été... j'ai commencé vraiment un processus, en fait, de déconstruction. Qui sont venus me chambouler vraiment en profondeur et bien plus loin, juste le fait de école, pas école, instruction en famille ou instruction à l'école. Enfin, c'est venu me chercher bien, bien plus loin que ça. Et c'est vraiment le cas de beaucoup de parents qui font ce choix-là. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait envie de parler par ce biais-là, en fait, de parler... de manière, de toutes les rencontres, de tous les livres qui nous ont vraiment bousculés, chamboulés, qui nous ont vraiment fait grandir, en fait, extrêmement vite, au contact de nos enfants et par ces nourritures-là aussi. Donc avec Yann, on avait envie de vous parler des livres qui ont contribué à changer notre regard sur des systèmes extrêmement forts et enracinés dans notre culture française, comme le système de l'enfance, comme le système de l'école, comme le système de la domination adulte. Et on avait envie de vous partager du coup notre vision et discuter autour de ces livres-là ce matin.
Moi, j'ai un parcours qui est assez proche et mon envie de partager ça, c'est que ce long parcours qui commence avec une enfance assez normale, au sens où elle est assez proche de celle de beaucoup de gens, dans ce que ça peut avoir de commun pour tout le monde d'être un enfant. C'est un parcours qui a beaucoup évolué, mais c'est une évolution qui est longue de prendre conscience de ce que c'est que l'enfance à l'échelle collective, du coup, et en quoi ça concerne tout le monde et bien, bien au-delà des enfants eux-mêmes, mais de la société, du monde dans lequel on vit. Et sur ce parcours qui est long, parce que ça, c'est la base même de notre construction individuelle qui repose là-dessus, et donc toucher à ça, c'est forcément toucher à des choses sensibles. Donc ça prend du temps et ça se fait avec des rencontres. Et parmi ces rencontres, évidemment, il y a des rencontres humaines, et j'ai moi aussi fait des rencontres, comme Anne-Laure vient de le dire. C'est des rencontres qui se font aussi parce qu'à un moment ou un autre, en tout cas dans mon cas, on vit avec des enfants, ou on accueille des enfants au monde et on vit avec eux. Et on rencontre sur ce parcours-là, enfin j'ai rencontré sur ce parcours-là aussi beaucoup de gens de tous âges qui se à un moment ou à un autre, était confronté à ces questions. Et parmi ces rencontres, il y a aussi des livres. Et ces livres, ceux dont on avait envie de parler, et c'est des livres qui ont été marquants, parce que c'est des rencontres qui, pour moi, étaient des rencontres qui relèvent d'une rencontre personnelle, quoi. Parce que c'est des livres qui parlent, voilà. Et c'est toujours agréable, et ça fait beaucoup de bien, les livres qui parlent, et qui nous parlent, voilà. Et qui nous aident donc à vivre, en fait, voilà.
Donc on va parler d'un premier livre.
On va parler d'un premier livre. C'est certainement moi le livre qui encore aujourd'hui me parle le plus parce qu'il est très bien écrit. C'est un livre qui s'appelle Les enfants d'abord et qui est écrit par Christiane Rochefort. Christiane Rochefort, c'est une romancière. Enfin en tout cas, elle est connue ou elle a été connue pour deuxième moitié du XXe siècle. Elle a été connue pour ses romans, que je vous recommande vivement, qui sont extrêmement vivants.
Et pour son engagement féministe.
Et voilà, et pour son engagement féministe, elle était connue aussi pour ça. Et du coup, par rapport au livre, c'est qu'elle a une plume absolument remarquable, extrêmement qui transmet énormément de vie. Et dans ce livre, dans Les enfants d'abord, il y a énormément de vie. Et voilà, la rencontre avec ce livre, c'est j'aime parler de ce livre pour dire que c'est un livre qui fait du bien. Et en tout cas, la rencontre avec ce livre, moi, m'a fait beaucoup de bien et je l'ai souvent recommandé et je sais que j'ai souvent eu ce retour-là sur l'effet que peut produire ce livre. C'est un livre qui a le mérite d'aborder la question de l'enfance. Peut-être je vais lire directement un extrait. Je trouve que j'avais envie de lire cet extrait parce qu'il reflète bien en fait à la fois l'écriture du livre et son contenu. Et peut-être après on peut en parler. Alors, l'enfance est une institution, non un fait. Comme fait, l'enfance, première partie de la vie humaine, dit prudemment le dictionnaire Robert, est un état mouvant aux limites imprécises. Comme institution, elle va de la naissance à un âge fixé par décret. On dit enfant, adolescent ou jeune, selon les besoins de la cause. La loi dit mineur, c'est la seule expression qui soit claire. Les sociétés modernes ont légalisé une discrimination fondée sur une différence de force musculaire. Mineur signifie moindre, plus petit, inférieur. Les dits enfants sont un ensemble d'humains, plus faibles au combat au corps à corps et constitués par les plus forts en catégorie, est soumis à un statut et un traitement spéciaux. Le statut est la privation de l'autonomie. Le traitement, appliquée par l'autorité adulte, à laquelle les mineurs ne peuvent se soustraire, consiste à éliminer du potentiel inné les éléments indésirables, incontrôlables ou simplement superflus, pour ne conserver et développer que ceux utiles à l'exploitation. C'est proprement une mutilation corporelle, pas seulement un conditionnement mental. Les mutilations corporelles tombent sous le coup des lois dans nos sociétés, mais pas celle-là, qui n'est pas avouée comme telle. Elle est dite « formation, éducation ». Pour estimer à peu près ce qui a été retranché au niveau corporel, il n'est que de comparer l'acuité des sens d'un enfant de 3 ans, sa vitalité permanente, l'intensité de ses désirs, son regard, son émerveillement, sa tendresse, sa souplesse de chat, et jusqu'à son sommeil avec ceux d'un adulte moyen. C'est comme une lampe qui s'est éteinte. On voit à l'œil nu sur quel point cet adulte réussi modèle conforme, se rendant à son bureau par exemple, a été opéré. Il n'utilise qu'une faible partie de son équipement sensoriel. Sa musculature est plus ou moins atrophiée, sa colonne vertébrale est soudée ou menacée d'effondrement, sa capacité respiratoire est réduite, son système nerveux autonome est bloqué, ses plexus sont noués, son énergie ne circule pas, il est dérythmé, son corps en est au point qu'il doit le préparer dans un club avant d'aller en vacances, s'il peut lui payer ça. Sa sexualité est misérable, il est plein de maladies psychosomatiques et de dépression, ainsi que de drogues diverses, son cerveau est un magnétophone, ses récepteurs sont saturés, il n'a pas de regard, il dort mal. Ses émotions négatives le dominent. Quant aux positives, il ne connaît pratiquement plus la joie. Et ne parlons pas de l'émerveillement, ce serait trop triste. Sa faculté de relation est rabattue jusqu'à la rétractation totale, l'autre lui fait peur. Et tout ça, qu'il n'a pas, il redoute de le perdre. Lampe éteinte qui craint le moindre souffle. Les adultes ont fini par croire que c'est naturel de dégringoler à ce point-là, sinon ils se flingueraient. Mais ça ne l'est pas, c'est une mutilation accomplie durant les 5 premières années de la vie et si profonde qu'ils aspirent encore à la transmettre. L'oppression des enfants est première et fondamentale, elle est le moule de toutes les autres. Voilà, je suis content de finir sur cette phrase qui est, à mon sens, la phrase peut-être qui dit le mieux ce qu'essaye de dire ce livre. Comme cette écriture le montre bien, c'est un livre qui prend par la main et qui essaye de rester un livre vivant et qui a le mérite de pas seulement d'être critique, même s'il est très, sur le plan descriptif, je pense que c'est le meilleur livre sur la question de l'enfance. Elle a fait le tour de la question, mais surtout elle prend le lecteur par la main et elle essaye de le ranimer en fait. Voilà. Et ça fait forcément du bien de retrouver, d'être accompagné pour retrouver l'enfant et d'essayer de le faire un peu remonter du fin fond des âges, quoi.
Remonter du fin fond des âges en soi ou chez les autres autour de nous, tu veux dire?
En tout cas, pour moi, ça a été d'abord à travers la lecture et ce à quoi ça me renvoyait. Et puis, en posant le livre dans la façon dont ça m'a aidé à ouvrir les yeux sur ce qui m'entourait et sur les personnes qui m'entouraient. Donc, c'est à la fois pour soi-même, mais c'est la même chose. Finalement, se retrouver soi-même, c'est retrouver la possibilité de revenir à la vie et donc de pouvoir à nouveau rentrer en relation avec les autres autour. Et voilà.
Elle parle justement de tout le potentiel, à la fois de vie, d'émotion, de joie, qui s'étiole, les cages thoraciques qui se resserrent, etc. Vous avez rencontré des enfants qui n'ont pas été mutilés comme ça? Ça existe?
En tout cas, moi, j'ai sur mon parcours pendant des années beaucoup fréquenté d'enfants qui avaient peut-être la chance d'être un peu plus écoutés que la moyenne, dont on tenait un peu plus compte de l'existence, des désirs et en fait qu'on considérait tout simplement comme des êtres humains à part entière et pas forcément comme des êtres inférieurs, c'est-à-dire comme des enfants, mais comme des êtres humains qui ont des caractéristiques comme on a tous des différences, certains sont plus petits, certains sont plus jeunes. Et effectivement, c'est assez net, c'est-à-dire que je connais énormément de gens de tous âges dont certains ne sont jamais allés à l'école. Si je vois côte à côte un enfant scolarisé, un enfant qui ne l'est pas, je fais immédiatement la différence. Enfin, ça saute aux yeux, en fait.
Moi, je peux parler de quelque chose de très personnel qui m'est arrivé cet été. Je l'ai pris vraiment comme un cadeau. J'étais sur un lieu et mon grand garçon faisait des acrobaties et de la danse. Mon garçon du coup de 14 ans. Et il y a un homme qui vient me voir en me disant « Mais c'est ton fils ?» Et en fait, il venait de 15 ans d'Amérique latine où il a travaillé auprès dans les tribus indiennes. Et il me disait « Je crois que c'est la première fois que je vois un enfant en France qui n'est pas dénaturé. Il est vraiment comme les jeunes que j'ai rencontrés, avec qui j'ai vécu pendant toutes ces années en Amérique latine. C'est la première fois que je vois un enfant en France comme ça, quoi. Et bon, je l'ai vraiment pris comme voilà, juste comme un cadeau. Mais du coup, ça peut répondre à ta question.
Ouais, ouais. Vous voulez enchaîner sur le deuxième livre ?
Ouais, c'est un lieu fermé, entouré de grilles ou de hauts murs. On ne peut pas y entrer ou y sortir librement. Et les personnes pour qui ce lieu est destiné n'ont pas choisi d'y aller. Elles y sont obligées par une autorité. Les visiteurs y sont rarement admis, et dans tous les cas à des horaires fixes et pour une durée très limitée. C'est un lieu en général bétonné, avec une cour goudronnée. La promenade dans la cour est courte et à des horaires fixes, elle est encadrée par des surveillants. Une désobéissance peut entraîner une interdiction de promenade. Dans les bâtiments de travail, les personnes doivent obéir aux tâches imposées et choisies par l'autorité. Manger quand c'est l'heure de manger, pisser quand c'est l'heure de pisser, rester assis de longues heures sans bouger à effectuer des tâches répétitives. Et parfois, courir quand c'est l'heure de courir et chanter quand c'est l'heure de chanter. Et surtout faire silence et surtout obéir. Toute désobéissance entraîne une sanction. L'entraide et l'imitation sont contraires à la réglementation. Aucune des tâches imposées n'est rémunérée. Voilà, c'est une description d'un système. Et il y a de nombreux auteurs, dont celui dont je vais vous parler, qui ont comparé du coup le système pénitentiaire avec le système école. Et John Holt en fait partie. Et il en parle dans « S'évader de l'enfance, les besoins et les droits des enfants ». C'est de ce livre du coup que j'avais envie de vous parler. C'est un livre qui m'a énormément bouleversée aussi quand j'étais... en pleine construction de mon identité parentale. Voilà. Et j'aime beaucoup ce titre, en fait, « S'évader de l'enfance », du coup, parce que le système enfance, dans le système enfance, les enfants ne sont pas considérés comme des humains. Ils ne bénéficient pas des droits de l'homme. Ils ne peuvent pas porter plainte, ils ne peuvent pas se déplacer librement, ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils veulent faire de leur temps, ils ne peuvent pas toucher de salaire. Ils ne peuvent pas choisir avec qui ils veulent vivre. Et du coup, tout ça, du coup, la raison officielle serait de les protéger et de les éduquer. Donc de les protéger et les éduquer en les privant de toute liberté et de tout droit. Pour leur bien, pour leur avenir et par amour. Voilà. Du coup, John Holt a des réponses très, très concrètes en fait, dans son livre. Pour transformer progressivement en fait ce système et réintroduire en fait du coup tous ces humains là en fait à l'autre partie de l'humanité. Souvent on va parler du travail des enfants en disant que les enfants risquent d'être exploités, mais en fait le problème du coup c'est l'exploitation par le travail, c'est pas le problème des enfants. Si on change le modèle de travail et le modèle d'exploitation, souvent, on voit les enfants qui sont réjouis de travailler, de participer et gagner 4 sous. Et du coup, souvent, on a des œillères, on voit juste complètement à côté, alors que c'est vraiment un système plus global qu'il faut changer. Et la proposition de John Holt, c'est que les droits, les privilèges et les responsabilités propres aux adultes, du coup, soient étendus aux enfants qui le souhaitent de manière extrêmement progressive. Voilà, Il est juste magnifique, ce bouquin. Et il vient effectivement, du coup, bousculer beaucoup, beaucoup de choses.
S'évader de l'enfance, ce serait presque tout un programme. Si, effectivement, et c'est l'intérêt de ces livres, mais à force... c'est vrai que... À force d'ouvrir les yeux, on finit par voir ça. C'est-à-dire qu'on finit par voir que l'enfance est une construction sociale. Et on peut, peu à peu, à force d'en sortir, de sortir de l'enfance, ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on vit et comprendre que l'enfance est un modèle qui est transmis aux jeunes arrivants, aux ceux qui débarquent sur Terre. Pour leur apprendre un peu comment ça marche ici. Et du coup, l'intérêt de s'évader de l'enfance n'a pas d'âge dans la mesure où on vit tous dans un système d'enfance qui est transmis aux plus jeunes, mais qui, avec le temps, on finit tous par intégrer ce système et finalement trouver comme évident ce qui ne l'était pas du tout au début, ce qui est imposé aux enfants et qui, lorsqu'on est considéré comme ayant acquis ce que ça nous impose, en fait. On est considéré comme adulte, et finalement, on fait que vivre dans ce système et reproduire ce système avec l'évidence de gens qui ont fini par fermer les yeux, parce qu'au bout d'un moment, c'est tout simplement difficile de voir ça, parce qu'on est dedans. Voilà. S'évader de l'enfance, du coup, consiste juste, en fait, à faire un pas de côté. Enfin, on ne l'a pas fait, mais on aurait pu, dans la bibliographie, j'y pense comme ça, penser à GB et à l'an 01. Enfin, il y a quelque chose de 1. On peut essayer, juste faire un pas de côté, quoi. Et faire un pas de côté, c'est assez révolutionnaire. Il suffit juste de se décaler et tout d'un coup, le monde a changé. S'évader de l'enfance, finalement, c'est commencer par faire un pas de côté, quoi. Alors, pour s'évader de l'enfance, en fait, nos parcours personnels, nous qui sommes là, ça a commencé par l'école. Et du coup, dans la série d'interviews qu'on fait là, on est quand même parti sur l'école. Et il y a beaucoup de gens qui abordent ça, et nous, c'est notre cas, en commençant par la question de l'école, parce que c'est un peu ce qui est en premier plan, en fait, quand on parle des enfants. Enfin, en tout cas, quand on vit avec des enfants, immédiatement, on est confronté à la question de l'école, particulièrement en tant que parent, puisque là, il y a une injonction... tout ce qu'il y a de plus social et voire légal, de toute façon, par rapport à l'école. Et qu'on est vite confronté à cette question. Et le simple pas de côté que dire et si pas d'école, ça ouvre une brèche sur l'enfance, en fait.
Vous voulez qu'on passe au troisième livre?
Du coup, ça nous amène au troisième livre, en fait. Je ne l'ai pas fait exprès, mais du coup, ça tombe bien. On voulait parler d'insoumission à l'école obligatoire. Titre qui est assez clair.
L'auteur, c'est
Catherine Becker. Un livre qui a lu aussi quelques décennies. Alors, tous ces livres ont quelques décennies parce qu'il y a eu un moment où quelques personnes... c'était des questions qui étaient à l'ordre du jour. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Ça revient de plus en plus. Peut-être parce qu'il y a urgence. Insoumission à l'obligatoire, c'est un livre qui moi, m'a été un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est un livre qui est extrêmement virulent, qui est écrit d'une plume très, très, très efficace, qui peut être difficile à lire. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec ce livre. Moi, ce livre, il a été important pour moi parce que j'étais... très 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 scolarisé et pendant des décennies, pas seulement quand j'étais petit. Je suis resté très longtemps scolarisé, j'ai été très marqué par le système scolaire, j'étais très intégré et il fallait bien un livre aussi radical au sens premier du mot, c'est-à-dire qui prenne vraiment les choses à la racine et qui aille droit au but pour arriver à faire les brèches qui m'ont permis ensuite je ne sais pas si je me suis évadé de l'enfance, mais enfin, je cours toujours un peu. Mais enfin, en tout cas, de changer beaucoup de choses et de changer mon rapport au monde et de me sentir mieux, tout simplement.
Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce livre, par exemple, qui t'a ouvert un peu les nouvelles pistes?
elle a une façon de parler de l'enfance qui est assez proche des autres livres dont on a parlé, mais elle a un style direct en affirmant des choses simples et en posant des vérités qu'il est difficile de nier, mais qu'il est toujours bon de rappeler. Par exemple, il y a quelques phrases assez percutantes, par exemple, de rappeler que quand on aborde la question de l'école, on a souvent un discours d'adulte qui est très mythologique autour de l'école. Bon, il y a une phrase dans ce livre qui dit tout simplement les enfants vont à l'école parce qu'on les y oblige. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut à regarder en face quand on aborde la question de l'école. Et en fait, tout autre discours à partir de là n'a plus tellement d'intérêt. Enfin, je veux dire que c'est plus d'intérêt. En tout cas, c'est secondaire. Insoumission à l'école obligatoire, qui est le titre, c'est clairement insoumission à l'école en tant qu'elle est obligatoire. Après, on peut discuter de l'école, des écoles, de qu'est-ce que c'est qu'une école. Mais en fait, rien qu'en prononçant ce mot, on a tous un mythe dans la tête, on a tous un passé, on a tous toute une représentation imaginaire qui est celle des adultes autour de l'école. L'école, c'est d'abord quelque chose qui est obligatoire, en fait. Voilà.
Oui, après quand tu me dis ça, ça me fait penser à tout ce qui nous fait qu'en tant que parents, on se sent obligé, forcé, contraint de mettre les enfants à l'école. Bien des parents pourraient choisir, avoir envie de ne pas les mettre à l'école, mais on a tout un système de contraintes qui fait que tout le monde le fait, enfin du moins la majorité des personnes.
Oui, je l'ai fait aussi. J'ai fait ça parce que ça se faisait, parce que j'étais scolarisé jusqu'au bout des ongles et que ça se faisait, que c'était à la fois... C'est obligatoire... Enfin, alors, c'était pas obligatoire légalement. Enfin, ça n'est toujours pas obligatoire légalement. Mais socialement, socialement, c'est obligatoire. C'est évident. En fait, c'est tellement évident que... oui, qu'on le fait. Et puis, en fait, il peut y avoir tout simplement un moment... par hasard où ça bloque, c'est-à-dire qu'éventuellement on peut être à l'écoute de son enfant et c'est là que si tant est qu'on soit à l'écoute et dans une relation qui permette cette expression, je ne vais pas faire de pari sur les chiffres, mais en fait je pense que chacun peut se souvenir qu'effectivement, les enfants vont à l'école parce que c'est obligé. C'est-à-dire que s'ils avaient les moyens de s'exprimer par rapport à ce sujet-là, on ne va pas faire de chiffres, mais je pense qu'une grande, grande majorité d'entre eux, oui, iraient peut-être de temps en temps, mais enfin, n'iraient pas la plupart du temps, quoi. Et du coup, c'est quand même un livre qui, celui-là encore, essaye aussi de montrer tout simplement la réalité, en fait, de ce que c'est que l'enfance, c'est-à-dire la réalité de la façon dont les adultes traitent les enfants, c'est-à-dire la façon dont un certain nombre d'êtres humains sont déniés de toute possibilité de choisir leur vie et de créer leur vie, en fait, tout simplement. Mais ça va plus loin que ça dans ce livre, c'est-à-dire qu'elle dépasse la question des enfants pour simplement rappeler que en fait les enfants c'est une construction sociale, ça n'existe pas et qu'on est tous concernés par ça en fait. Par exemple, j'ai pas le livre sous les yeux donc je vais le citer de mémoire, mais il y a un passage où simplement elle rappelle que il est tout à fait scandaleux d'obliger les enfants à aller à l'école, mais il est encore plus scandaleux d'interdire aux autres d'y aller. On n'a pas le droit d'apprendre à l'école quand on est adulte, en fait. On n'a pas le droit de rentrer dans une école, tout simplement. On n'a pas le droit de s'inscrire dans une école. On n'a pas le droit... voilà. Donc, c'est une question qui concerne tout le monde. À travers la question de l'école, se pose la question de l'organisation sociale dans sa globalité, en fait. Et de l'obligation qui est faite à chacun de s'inscrire dans cette organisation sociale et pas dans une autre.
Le système et la société est construite de telle façon que du coup, beaucoup de parents ne se posent pas la question sur école, pas école. C'est comme ça. C'est aussi un bon mode de garde, aussi, pour pouvoir juste travailler, gagner sa croûte. Et les adultes ne se posent pas la question de ce qu'est-ce qu'ils auraient envie d'apprendre, parce qu'en fait, ça y est, ils sont passés de l'autre côté, et ils sont dans le monde du travail, et du coup, c'est comme ça que ça marche. Mais en fait, tout ça, du coup, peut se remettre à plat. Et on en vient au livre d'Illich, Une société sans école, qui a été traduit comme ça en français, mais la traduction...
Le titre anglais est différent. Alors, Illich parlait beaucoup de langues et a dû choisir le titre en français, probablement. On n'a pas vérifié. Mais il se trouve que le titre anglais, c'est « Deschooling Society ». Et du coup, ça dit peut-être... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ça dit un peu mieux que le titre français, ce que contient le livre, en fait. C'est-à-dire qu'il essaye de penser la société en tant qu'elle est scolarisée, en tant qu'on vit dans un monde scolaire et dans une logique scolaire. C'est-à-dire qu'au lieu de l'école, le mot école renvoie au mythe de l'école tel qu'on l'a tous en tête... La scolarisation, c'est la logique scolaire, c'est une façon d'aborder un rapport au monde, en fait. C'est un rapport au monde, c'est un rapport au savoir, c'est un rapport à la connaissance, c'est un rapport aux autres. Et comme il le dit dans son livre, nous baignons dans des sociétés scolaires, au sens où la scolarisation détermine l'ensemble du fonctionnement social. Voilà, Illich a une écriture qui est extrêmement douce. Voilà, c'est bien parce que du coup, il y a une manière pour chacun d'aborder ça de façon différente avec les différents livres. L'écriture des livres est extrêmement douce, posée. On est pris par la main et on avance très lentement et on a le temps doucement avec des mots simples et vraiment accessibles à tous.
Avec beaucoup de propositions très concrètes. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est du coup, on sort vraiment du clivage nord-sud aussi. C'est vraiment un livre qui s'adresse aussi, en fait, aux pays du Sud et qui est hyper intéressant pour eux aussi. Il rejoint, du coup, Insoumission à l'école obligatoire dans le sens obligatoire, où, en fait, on a tous le droit de s'instruire à n'importe quel âge de notre vie ou de ne pas aller dans une démarche, du coup, de transmission, de recevoir du savoir, si on veut. On devrait être libre toute notre vie et de transmettre tout ce qu'on sait, parce qu'en fait, on sait plein de choses, et de recevoir tout ce qu'on a envie de recevoir. Et il propose du coup un modèle de société où tous les lieux publics seraient des lieux d'ateliers, des lieux de labos, des lieux de bibliothèques, des lieux de l'image un peu de l'université populaire, où en fait, on serait dans une transmission complètement horizontale, en fait. On gagnerait énormément en autonomie parce qu'on pourrait apprendre comment se soigner, apprendre comment construire, apprendre et aller selon nos centres d'intérêt. Et c'est vraiment aussi très intéressant pour les pays du Sud qui galèrent avec leur école, qui mettent tout leur PIB en fait dans l'éducation des jeunes. Alors que c'est des pays pauvres. Et pour autant, de toute façon, leurs écoles ne seront jamais au niveau des nôtres. Leurs diplômes ne seront jamais reconnus comme nos grandes écoles. Du coup, en plus, tout l'argent qu'ils y mettent, je veux dire, c'est à fond perdu. Ils ne seront jamais au niveau des pays du Nord, en fait. Du coup, c'est aussi très intéressant parce que ça, je trouve que ça... Ça remet aussi de l'égalité. C'est dans les pays du Sud, ce qu'on voit beaucoup, vu que la norme est la norme, c'est l'Occident, la réussite, c'est l'Occident, la richesse, c'est l'Occident, le développement, c'est nous. Du coup, notre modèle est malheureusement très implanté là-bas, via aussi la colonisation et tout ça. Mais du coup, ça fait aussi des adultes, en fait, qui n'ont plus qui sont coupés, en fait, dans la transmission de leur culture, de leur de tout leur héritage, en fait, social. Alors qu'ils ont plein de choses à transmettre à leurs enfants, ils ont plein de choses à transmettre au monde. Quand on voit qu'ils, dans certaines tribus, ils ont 350 mots pour décrire le mot vert, c'est pas une richesse immense, ça, c'est quoi, enfin. Et du coup, on est dans quelque chose de niveler en fait des savoirs, de niveler des sociétés, de niveler des écoles. Voilà. Et moi, ça me semble complètement faux. Mais du coup, voilà, le livre d'Illich démonte vraiment tout ce système-là et propose qu'on puisse tous apprendre et transmettre à n'importe quel moment de notre vie et pas seulement quand on est enfant de tel âge à tel âge et dans un cadre particulier qui est une grande mixité.
Sortir de la logique scolaire, c'est-à-dire donc un des éléments, ce serait, si je comprends bien ce que propose Illich, ce serait de dire que chaque personne peut enseigner et on est tous un enseignant et un enseigné à la fois, entre guillemets.
Ça s'inscrit en fait dans la pensée d'Illich. Ce livre s'inscrit dans la pensée d'Illich qui a abordé beaucoup de sujets et qui à chaque fois se révolte contre la dépossession de nos vies et de notre autonomie en fait. L'accès au savoir faisant partie de l'autonomie et la dépossession de la possibilité d'être créatif et d'agir nous-mêmes sur le monde. C'est-à-dire que et la logique scolaire nous apprend ça et s'inscrit là-dedans, à savoir que on s'en remet à des professionnels. Il y a une professionnalisation qui capte les savoirs. Et ensuite, on se retrouve dans une dépendance vis-à-vis des professionnels, quel que soit le sujet, finalement. Donc, en matière d'enseignement, de transmission des savoirs, de technique de transmission des savoirs, ou les savoirs eux-mêmes, mais tout le monde qui nous entoure, en fait. On est dépossédé du monde qui nous entoure. Et la logique scolaire nous apprend ça, en fait. D'abord, elle nous apprend à accepter qu'on est des inférieurs, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'autorité, qu'on a besoin d'un système qui nous protège, qui nous apporte un certain nombre de choses sans lesquelles on ne pourrait pas vivre et encore heureux qu'il est là. Et du coup, une fois qu'on est persuadé de ça et que ça s'appelle un adulte, eh ben on reproduit assez logiquement ce système, persuadé que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. On a été dépossédé de notre confiance en nous, dans notre capacité créative et tout simplement dans notre capacité à vivre et à construire le monde. Et donc forcément, on peut comprendre qu'il y a un certain nombre de gens, d'institutions, de personnes qui intéressent que ça perdure, bien sûr. Mais on peut aussi déjà prendre conscience de ça. Et c'est là qu'une écriture comme celle d'Illich est agréable parce qu'elle aide très concrètement. Son livre est en soi une forme de remède parce qu'elle aide à retrouver confiance en soi aussi. Et de simplement de dire, je peux voir ça, je peux m'en rendre compte. Mais si déjà je peux me rendre compte de ça, mais alors je peux tout faire en fait. Et c'est donc une forme d'accès à la liberté, quoi.
Ça me fait penser à des gens que j'ai rencontrés, les Wikipédiens, les gens qui contribuent sur Wikipédia. Ça m'a marqué, chacun est libre de modifier Wikipédia, et donc chacun est potentiellement une source de savoir qu'il peut partager en ligne. Et ce site, qui est l'un des plus gros sites au monde, montre que chacun peut mettre dans le débat des savoirs qui n'étaient pas à l'ordre du jour, peut dire « Tenez, moi je vais rajouter un article sur ce sujet, parce que ce sujet il est important dans le savoir. » Je me demandais, Wikipédia, c'est quelque chose que Illich, il cautionnerait ça ou...
Alors, en fait, Illich était quelqu'un qui était...
Anti-technologie, peut-être
Alors, qui était... Non, il était pas... Enfin, c'est pas qu'il était anti-technologique, c'est qu'il était critique par rapport à la technologie, dans la mesure où elle nous dépossédait d'un accès au monde du vivant. Illich, c'est quelqu'un qui faisait des conférences et qui a fait une conférence là-dessus d'ailleurs, mais où il explique que dans ses conférences, il n'est pas question pour lui d'utiliser un micro et des haut-parleurs, parce qu'il veut un lien direct et sans intermédiaire avec les gens à qui il parle. Il veut que sa parole ne soit pas modifiée par les machines, en fait. La pensée d'Illich est une pensée qui se méfiait énormément des machines, dans la mesure où elles nous font perdre notre autonomie, tout simplement. Personnellement, j'ai été obligé de prendre un smartphone il y a 2 mois de ça, parce que pour des raisons d'urgence, parce que j'avais plus de téléphone. Je ne sais pas me servir je suis absolument incapable de me servir de ces bestioles-là. J'ai pas envie d'apprendre parce qu'en fait, ça va me demander tellement de temps que je vais pas pouvoir faire autre chose et ça va modifier mon rapport au monde surtout, en fait. Donc, Illich, par rapport à Wikipédia, je pense que...
ça déconstruit la logique scolaire, mais en même temps, ça renforce la dépossession par la technologie.
Voilà, c'est lié à la question de l'autonomie, en fait.
C'est une émancipation pour une oppression.
Je tombe sur une de ces phrases où il parle de ça dans son livre... À quoi devraient servir les possibilités que nous donne la technologie ? Sinon, à donner à chacun les moyens de s'exprimer, de communiquer, de rencontrer les autres. C'est la liberté universelle de parole, de réunion, d'information qui a vertu éducative. Du coup, je pense qu'on pourrait discuter avec lui. Il ne serait pas complètement défavorable.
Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour nous amener vers la conclusion ?
Enfin, c'est fou parce qu'en fait, Illich, il revient vraiment... Il rejoint complètement les auteurs qu'on a évoqués en début. J'ai lu un de ces passages. S'il n'y avait pas d'âge spécifique et défini par la loi, ni de système scolaire obligatoire, l'enfance n'aurait plus cours.
J'ai découvert ces 4 livres ce matin, il y a une heure. Et ce que ça m'évoque, c'est qu'en fait, quand on voit des enfants qu'on marque enfants à problème, enfin, on a souvent tendance à chercher qu'est-ce qui se passe dans l'enfant, quelle est son inadaptation, quelle est sa pathologie, quels sont ses défauts de tempérament, quels sont les reproches qu'on peut faire aux parents. Si on commence à se dire qu'en fait, c'est pas l'enfant le problème, mais c'est vraiment tout le système, l'école, l'enfance. On a parlé aussi parfois du lien avec le travail.
J'ai juste envie de rappeler, par les temps qui courent, c'est toujours bizarre de rappeler ça, mais peut-être c'est nécessaire de rappeler que les êtres humains ne sont pas des problèmes. Et que, voilà, que les êtres vivants ne sont pas des problèmes. Voilà. On a tendance à entendre ça de plus en plus. C'est dommage. C'est dommage.
Des problèmes, ouais, dans un système particulier qui fait du désordre dans un système...
Dans un système normatif où chaque différence, au lieu d'être valorisée, en fait, du coup, est jugée, condamnée, étouffée. Donc, effectivement, ça fait, du coup, des enfants inadaptés, des enfants à problème, des enfants avec des troubles. Enfin, la phobie scolaire qui, pour moi, a été inventée... face à une norme extrêmement dominante, du coup, il y a de plus en plus d'inadaptés. Tous ceux qui n'arrivent pas à plier doucement sont juste ou cassés ou montrés du doigt comme marginaux, comme rebelles. Comme...
Dans un système d'oppression, toute forme de révolte est nommée par les dominants un problème. Voilà. Donc les adultes, dès qu'il y a les enfants qui essayent de sortir du système de l'enfance, appellent ça un problème. Parce que par définition, ça va à l'encontre de la perpétuation de leur domination, quoi. Qui est structurelle, bien sûr. Mais bon, après, on peut aussi, ça a beau être structurel, à un moment, on peut se situer là-dedans, quoi. Rien n'empêche de se situer individuellement là-dedans et d'essayer de retrouver d'autres personnes avec qui on peut éventuellement se dire que peut-être ça pourrait être autrement. Quoi. Peut-être.
Merci à vous pour avoir découvert ces 4 livres. Ce deuxième épisode touche à sa fin. Et donc, bonne journée, au plaisir et à bientôt.
Ouais, merci Eric.
Oui, merci de nous avoir accueillis.
Ouais, d'avoir ouvert ce vaste sujet dont on a peu d'espace pour parler.
Merci à vous. Allez, bonne journée.
Bonne journée.